Il était avec nous avant-hier, si je ne m'abuse, lundi, Toby Green, chercheur associé à LSE et conférencier à l'université Bar-Ilan, nous donne son analyse du rôle du Royaume-Uni. Vous saviez, on avait fait une chronique sur les relations entre le Royaume-Uni et Israël. C'était avant, ça avait été enregistré avant l'attaque massive de l'Iran sur Israël. On a jugé donc utile et intéressant surtout de reprendre contact avec Toby Green pour avoir son avis après le 13 avril, c'est bien ça, hein, ma chère Lise. Le samedi, c'est ça, hein, le 13 avril, j'y suis bien. Alors, le voici au micro de Lucie Gilson et il nous parle de la réaction du gouvernement britannique face à l'attaque iranienne dirigée contre Israël.
Toby Green, bonjour. Vous êtes chercheur à la London School of Economics et conférencier à l'université Bar-Ilan à Londres et spécialiste de la politique étrangère britannique en ce qui concerne le Proche et le Moyen-Orient. Comme vous le savez, l'Iran a lancé une attaque contre Israël ce week-end, mais 99% des missiles lancés ont été interceptés. Le système de défense israélien a été assez efficace, aidé par une coalition occidentale comprenant les États-Unis, le Royaume-Uni, la Jordanie, la France et l'Arabie Saoudite. Êtes-vous surpris que le Royaume-Uni ait joué un rôle prégnant dans l'aide apportée à Israël lors de cette attaque?
No, not very surprised. I mean, we've already seen in the last six months that the UK has been working.
Non, je ne suis pas très surpris. Nous avons déjà vu au cours des six derniers mois le Royaume-Uni travailler en étroite collaboration avec les États-Unis pour aider Israël dans un contexte régional plus large, notamment en prenant des mesures militaires directes contre les Houthis du Yémen, par exemple, en réponse à leurs attaques répétées en mer Rouge, à la fois en termes d'envoi de renforts navals en mer Rouge, mais aussi, bien sûr, contre les attaques aux missiles balistiques et de drones effectués par les Houthis sur le sud d'Israël depuis plusieurs mois. Donc, d'une certaine manière, cela contextualise un peu la réponse des alliés occidentaux et l'implication du Royaume-Uni aux côtés des États-Unis et d'autres pays dans le cas de cette attaque de la part de l'Iran. Ce n'est pas un secret que le Royaume-Uni entretient des relations privilégiées avec les États-Unis sur le plan militaire. Nous avons donc l'habitude de voir la Grande-Bretagne comme l'allié le plus proche des États-Unis lorsque ceux-ci entreprennent une action militaire avec leurs partenaires. Et nous avons également constaté une relation de sécurité défensive de plus en plus étroite entre la Grande-Bretagne et Israël au cours des dernières années. Et en plus de tout ça, les relations entre la Grande-Bretagne et l'Iran sont assez tendues depuis un certain temps déjà. Donc non, ce n'est pas vraiment une surprise pour moi.
Where those relations have been very tense for a long time also. So in that sense, no, not terribly surprised by the UK's role.
Et justement, vous parlez des relations tendues entre le Royaume-Uni avec l'Iran. Pouvez-vous élaborer un peu là-dessus?
Yes, so I would say the sort of relations between the UK and Iran range from bad to very bad, depending on.
Oui, je dirais que les relations entre le Royaume-Uni et l'Iran vont de mauvaises à très mauvaises selon les circonstances. Il y a un vrai historique de tension entre les deux pays. Vous savez, c'est un élément constant de la rhétorique iranienne que de mettre le Royaume-Uni dans le même sac que les États-Unis et Israël aussi, et de catégorisé comme pays, je cite, diabolique, à qui il serait opposé. Le Royaume-Uni joue un rôle dans le discours politique et public iranien comme les ennemis héréditaires. Nous avons vu de nombreuses tensions au cours des années, et vous savez, des navires qui ont été la cible d'attaques ou dont l'équipage ont été capturés, tout comme des rixes diplomatiques. Je pense juste à des exemples au cours des 10 à 15 dernières années, à des moments de tension maximale. Et vous savez, si l'on en croit la rhétorique des politiques du Royaume-Uni, les politiciens britanniques ont tendance à être très très dur avec l'Iran en particulier également, car ils entretiennent des relations très étroites avec les États arabes du Golfe. Il ne s'agit donc pas seulement des relations entre la Grande-Bretagne et Israël, il s'agit d'une sorte de tableau régional plus large et plus vaste, et une fois encore, le Royaume-Uni se considère en étroite alliance avec les États-Unis pour défendre les intérêts occidentaux dans la région, notamment avec les acteurs radicaux anti-occidentaux.
Est-ce que cela signifie que si une telle attaque se reproduit à l'avenir, Israël pourra toujours compter sur ses alliés pour l'aider de la même manière, en commençant par le Royaume-Uni?
Well, I mean, there's a very strong feature of Israeli
La tendance stratégique israélienne se caractérise par le fait qu'elle ne compte pas sur les autres et qu'elle s'assure d'avoir les capacités de se défendre par elle-même si nécessaire. Israël a développé au cours des 20-30 dernières années, comme depuis, je pense, la première guerre du Golfe en Irak, où Israël a développé un système de défense antimissile très efficace. On peut même dire qu'il pourrait s'agir du système le plus avancé du monde, mais bien sûr, Israël est heureux de pouvoir compter sur l'aide de ses alliés qui s'est avérée très importante et efficace dans le cas de cette attaque, non seulement les alliés occidentaux, mais aussi les alliés de la région, je pense à la Jordanie et très probablement d'autres États arabes de manière plus secrète qui assistent également Israël, de sorte qu'il s'agit de développement très positif du point de vue israélien. Alors, après, le maintien de cette alliance avec les alliés occidentaux et régionaux dépend aussi de la manière et comment Israël répond à cette attaque. Israël subit maintenant une forte pression quant à la réponse qu'il va apporter et de la part de ces mêmes pays qui ont agi pour aider Israël à se défendre lors de ces attaques. Pour le moment, les alliés d'Israël lui ont demandé de ne pas répondre militairement à cette attaque, mais le gouvernement israélien a indiqué qu'il avait l'intention de le faire, ce qui, à mon avis, pourrait affecter la coalition ou du moins la mettre à rude épreuve.
Vous l'avez dit, les autorités britanniques ont bien sûr réagi à la suite de cette attaque. David Cameron et le Premier ministre Rishi Sunak ont déclaré qu'ils ne soutiendraient pas Israël en cas de représailles militaires et ils ont enjoint Israël à observer la plus grande retenue. Comment l'interpréter ?
Yeah, well, I think there's a close alignment between the message of the UK and the message of the Biden administration to Israel, which is, you know, to try and interpret the success
Oui, je pense que le message du Royaume-Uni est celui de l'administration Biden à l'égard d'Israël, qui sont étroitement liés. Il s'agit d'essayer d'interpréter le succès de l'interprétation de tous ces missiles et drones iraniens comme une victoire symbolique et une victoire stratégique, et de s'en tenir à cela. Tel est donc l'objectif de la Grande-Bretagne. C'est pourquoi ils souhaitent persuader Israël de prendre ce qui s'est passé ce week-end comme une victoire sans répondre directement à l'Iran, ce qui pourrait déclencher une escalade plus large. Après, ils sont préoccupés aussi car ils n'ont pas vraiment de contrôle sur la manière dont Israël va effectivement répondre à cette attaque. Donc je pense qu'il s'agit d'un message à double sens, une solidarité très forte envers Israël avec une condamnation très ferme de l'Iran, mais aussi une tentative de persuader Israël de ne pas y répondre. Control or influence over how, you know, over the extent of any Israeli response. Of course, there's many different levels at which Israel can respond. But that is the message. It's a double-sided message, a very strong solidarity with Israel, very strong condemnation of Iran, but also trying to persuade Israel to call it a day.
Rishi Sunak a également déclaré qu'il était en étroite communication avec son homologue israélien Benjamin Netanyahou. Est-ce que cela indique qu'Israël et le Royaume-Uni souhaitent renforcer leurs relations à l'avenir?
Well, I think the relations have strengthened over a number of years. I think for a number of reasons.
Je pense que c'est pour un certain nombre de raisons. Les relations entre le Royaume-Uni et Israël sont de toute manière renforcées par leurs liens économiques et commerciaux, mais aussi en termes de coopération en matière de sécurité, de la coopération militaire, comme par exemple avec l'échange d'équipements militaires et de renseignements. Le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne a également incité Israël à investir de manière significative dans ses relations avec ses partenaires stratégiques qui ne sont pas des États membres de l'Union européenne. L'un des facteurs également, ce sont les relations régionales, par exemple entre Israël et les États arabes, qui ont également contribué à faciliter l'amélioration des relations entre lui et ses alliés. C'est donc la trajectoire que nous avons observée au cours de ces dernières années et nous avons des accords de feuille de route pour faire avancer et pour renforcer encore plus ces relations. Ce qui se passera à l'avenir dépendra de l'orientation politique en Israël et au Royaume-Uni. Pour les gouvernements occidentaux, ce gouvernement israélien n'est pas le plus facile à soutenir. Du coup, ce n'est pas la situation la plus lisible, car il y a beaucoup de facteurs en jeu. Même avant le 7 octobre dernier, le gouvernement israélien incluait des partis de droite nationaliste, et c'est très difficile pour la Grande-Bretagne et les autres États occidentaux d'être d'accord avec ces partis. Et même si ces pays sont relativement en faveur d'Israël et souhaitent avoir de bonnes relations avec l'État hébreu, ils aimeraient également que la question israélo-palestinienne progresse et que l'on s'oriente vers une solution à deux États, ce qui est très difficile en envisagée pour le gouvernement israélien. L'avenir dépendra donc évidemment de ce qui se passera dans la bande de Gaza, de l'orientation de la politique intérieure israélienne, mais aussi de celle de la politique intérieure britannique, car des changements dans le paysage politique en Grande-Bretagne sont à venir également.
Je voudrais maintenant terminer notre entretien par une question qui concerne la politique intérieure britannique. La minorité musulmane est très forte au Royaume-Uni et l'on sait qu'elle se montre aujourd'hui très critique envers Israël. Le pays fait également face à une vague d'antisémitisme. Est-ce pour cette raison que les autorités britanniques se montrent plutôt prudentes à l'écart d'Israël ?
So on the whole, there is obviously a concern about antisemitism in the UK. And we do see that rates of antisemitism among British Muslims are higher than for the general population. And yes, there is a
Dans l'ensemble, la montée de l'antisémitisme suscite beaucoup d'inquiétudes au niveau décisionnaire au Royaume-Uni. Et même si c'est vrai qu'il y a bien plus de racisme et d'antisémitisme chez les musulmans britanniques que si l'on s'intéresse à la population générale, alors oui, il y a une forte tendance à l'hostilité à l'égard d'Israël. Parmi les musulmans britanniques, il y a un grand sens de solidarité et une fraternité envers les Palestiniens qui est plus prononcée que lorsqu'on prend le public général. Et c'est une tendance qui semble se prononcer encore plus. Toutefois, je pense que la plupart des hommes politiques britanniques sont réfractaires à l'idée que la politique étrangère soit dictée par les intérêts de secteurs et ou d'une minorité particulière. Je pense que cela peut avoir une influence, par exemple, sur certains membres du Parlement qui comptent un nombre important de musulmans dans leur circonscription et dont les perspectives seront inévitablement façonnées par leurs électeurs. Cela peut donc avoir un effet sur le point de vue de certains politiciens, mais dans l'ensemble, la plupart des dirigeants politiques britanniques voudront agir en fonction de ce qu'ils pensent être les intérêts britanniques.
Act on what they think are British interests and not shape their policy only according to the interests of a particular sector.
Il est également important de noter que la pensée des musulmans britanniques n'est pas monolithique non plus à ce sujet, car ce ne serait pas exact. Il s'agit d'une communauté très diversifiée, avec un large éventail de points de vue, et d'ailleurs la politique étrangère n'est pas vraiment la priorité de la plupart des musulmans britanniques. Ils sont préoccupés par la même chose que les autres, à savoir le coût de la vie et le racisme. Il serait donc erroné de penser que l'entièreté de la population musulmane britannique suit attentivement la question palestinienne et considère cette question comme la plus importante.
Toby Green, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chercheur à la London School of Economics et conférencier à l'université Bar-Ilan et spécialiste de la politique étrangère britannique en ce qui concerne le Proche et le Moyen-Orient. Merci d'avoir bien voulu répondre aux questions de Radio Judaïka et à bientôt.
My pleasure, thank you.